Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La Turquie est devenue un acteur incontournable dans la crise en Libye en raison de son interventionnisme croissant dans la région. Une présence forte aux côtés du gouvernement d'Union nationale de Tripoli qui se veut le pendant de la présence russe à Benghazi en Cyrénaïque. Pour notre invité, le politologue Omar Babahouya, cette projection de la puissance turque qui se veut l'expression d'un nationalisme élargi n'est pas sans risque et elle provoque déjà des tensions avec les voisins et partenaires de l'Europe au sein de l'Alliance Atlantique. Un article à lire dans le numéro 49 de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient, dont le dossier est consacré à la Libye. Et une émission réalisée par Mathias Golchani, enregistrée par téléphone, pandémie oblige, à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Omar Babahouya.
Bonjour Éric Bataillon.
Politologue, vous avez publié en 2020 chez l'Harmattan « La diplomatie turque au Moyen-Orient à l'ère de l'AKP » et pour la revue Moyen-Orient, dans ce numéro consacré à la Libye, vous rédigez un article sur la dimension énergétique de l'engagement turc en Libye et en Méditerranée orientale. Omar Babahouya, rappelez-nous comment la Turquie s'approvisionne en énergie pour alimenter son économie qui était jusque-là florissante.
Oui, d'abord, vous avez tout à fait raison d'évoquer la croissance économique relativement spectaculaire de la Turquie ces deux dernières décennies, même si elle connaît actuellement un ralentissement. Ce qui est stupéfiant à noter ici est que l'énergie qui alimente l'économie turque est quasi exclusivement issue des importations. Si l'on prend l'exemple du pétrole, le pays importe près de 95% de ses ressources pétrolières absorbées par son économie. Et le taux de dépendance vis-à-vis de l'étranger est encore plus saisissant concernant le gaz, puisque la Turquie importe près de 99% de son gaz utilisé sur son territoire. Et à regarder de plus près, on observe que 50% du pétrole importé provient du voisin iranien et plus de 50% du gaz est originaire des immenses réserves du voisin russe.
Alors, la Turquie est donc très dépendante de fait de l'Iran et de la Russie. Néanmoins, ne profite-t-elle pas, et depuis longtemps, de sa position géographique stratégique entre pays producteurs et pays consommateurs ?
Absolument. La Turquie tente de capitaliser sur cet atout avec l'ambition de devenir un hub énergétique qui existe depuis plusieurs décennies. Si l'on observe la Turquie sur une carte, je crois qu'on peut aisément remarquer que le pays fait véritablement office de pont entre les pays producteurs d'hydrocarbures d'une part, c'est-à-dire au nord du pays la Russie, au sud et à l'est de la Turquie le Moyen-Orient, avec notamment l'Irak et l'Iran. Ensuite, la mer Caspienne, évidemment, avec toutes ces anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, aujourd'hui indépendantes comme l'Azerbaïdjan ou encore le Kazakhstan. Et d'autre part, les pays consommateurs, c'est-à-dire essentiellement l'Europe et les pays méditerranéens. Et on peut donner ici l'exemple du gazoduc transanatolien qui a été inauguré en 2018 et qui transporte le gaz azerbaïdjanais de Bakou à l'Europe du Sud en transitant par le territoire turc.
Une position centrale donc. Vous évoquez dans votre article le concept de profondeur stratégique concernant la Turquie. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est une notion, me semble-t-il, très importante pour comprendre la diplomatie turque ces deux dernières décennies. Alors, elle a été théorisée par Ahmed Davutoğlu, qui a la particularité d'être un ancien professeur de relations internationales, devenu ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2014. Donc, il est passé, en quelque sorte, de la théorie à la pratique, d'ailleurs un peu comme Kissinger aux États-Unis dans les années 70. Alors, pour Davutoğlu, la profondeur stratégique de la Turquie repose sur deux dimensions essentielles, la géographie, nous venons de l'évoquer, et puis l'histoire. Sur ce dernier aspect, Davutoğlu considère que la Turquie doit utiliser cette proximité historique, qui est parfois culturelle, religieuse ou ethnique, avec ses voisins pour favoriser l'émergence de sa diplomatie. Alors, il s'agit essentiellement des anciennes provinces ottomanes, comme les Balkans, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, ou encore les républiques turcophones d'Asie centrale. N'oublions pas que les Turcs sont originaires de cette région-là.
Mais en quoi l'approvisionnement énergétique de la Turquie influence-t-elle directement sa politique étrangère ? Est-ce par rapport, par exemple, à la notion de zéro problème avec les voisins ?
Alors oui, tout à fait. La Turquie a tenté de développer cette politique de zéro problème avec les voisins pour pouvoir effectivement sécuriser ses approvisionnements en énergie. Si l'on prend l'exemple de la dépendance de la Turquie vis-à-vis de l'Iran, eh bien on peut voir aisément que la Turquie a démontré qu'elle était soucieuse de ne pas fâcher son voisin iranien. D'abord, Recep Tayyip Erdogan a toujours défendu le droit des Iraniens à développer un programme nucléaire civil. Une position qui n'est pas simple à défendre sur la scène internationale. Et puis ensuite, sur la question syrienne, l'Iran et la Turquie ont des intérêts absolument antagonistes, mais la Turquie, encore une fois, a su maintenir les portes du dialogue ouvertes avec l'Iran, comme en témoigne le processus d'Astana.
On remarque toutefois donc cette dépendance énergétique aussi bien le voisin iranien que le grand voisin russe. Mais en quoi les récentes découvertes de gaz en Méditerranée, Omar Babakhouya, changent-elles la perspective pour la Turquie?
Alors, ce qui est intéressant à noter vis-à-vis de ces découvertes de gaz en Méditerranée, c'est qu'elles ne font en réalité que faire ressurgir cette problématique ancienne de la Turquie, qui est la dépendance énergétique. Bien évidemment, la perspective de pouvoir jouir de sa propre source d'hydrocarbures est perçue par Ankara comme une occasion à ne pas manquer pour pouvoir libérer sa politique étrangère de cette dépendance-là.
On l'a vu récemment, entre la victoire d'un de ses supporters à la présidence de Chypre du Nord et aussi le soutien à l'Azerbaïdjan, la Turquie, on a l'impression qu'elle tente de redessiner les frontières dans la région. Est-ce un jeu dangereux pour Ankara?
Oui, on voit bien que la Turquie multiplie les interventions ou soutien à ses alliés en Azerbaïdjan, vous l'avez mentionné, en Syrie, mais aussi en Libye, aux côtés du gouvernement de Faïez Sarraj, pour maintenir son influence en Méditerranée et dans la région. Je pense qu'il s'agit essentiellement ici d'un réflexe de pays émergents qui tente d'asseoir sa puissance au niveau régional. Il y a effectivement le risque de se mettre à dos certains pays de la région. Et c'est un risque important. Le risque également de se fâcher avec ses alliés traditionnels, et on le voit bien en Méditerranée orientale avec les partenaires européens de la Turquie ou encore au sein de l'OTAN. Et puis, très important également, potentiellement se mettre à dos l'opinion publique turque, qui est très sensible à l'engagement des forces armées à l'étranger et qui, bien évidemment, ne souhaite pas voir un espèce de Vietnam turc ni en Syrie, ni en Libye.
Sur RFI. Omar Babakhouya, la Turquie s'est invitée dans le dossier libyen du côté du pouvoir de Tripoli et donc contre finalement l'un de ses fournisseurs principaux d'hydrocarbures, la Russie. Pourquoi, à votre avis?
Je crois que l'engagement turc aux côtés du gouvernement de Faïez Sarraj, basé à Tripoli en Libye, est au fond lié à un sentiment d'isolement et d'exclusion au niveau régional. Vous l'avez mentionné, la découverte d'un certain nombre de gisements gaziers a changé la donne. Il s'agit de gisements gaziers au large des côtes chypriotes, libanaises, israéliennes, palestiniennes, égyptiennes, qui a accru le caractère stratégique et géopolitique de la Méditerranée orientale. Donc, par son accord sur les frontières maritimes avec la Libye en novembre 2019, la Turquie exprime son opposition claire au projet EastMed, qui est un projet réunissant l'Égypte, Chypre, la Grèce et l'État d'Israël, et qui ambitionne d'acheminer le gaz récemment découvert en Méditerranée orientale vers le marché européen en contournant la Turquie. Alors bien évidemment, en échange, la Libye a reçu un soutien militaire de la part de la Turquie décisif pour repousser l'offensive des troupes de Khalifa Haftar, principalement soutenue par les Émirats arabes unis et la Russie. Cela permet par ailleurs à la Turquie d'avoir des cartes à jouer face aux Russes lors de négociations au sujet de la Syrie ou encore du Caucase. Et dans le même temps, cela rapproche Ankara de Washington, qui voit effectivement d'un mauvais œil la présence prolongée des mercenaires russes en Libye et qui tolère pour l'heure l'activisme turc, mais cela peut évoluer sous l'administration Biden.
Justement, c'était ma question. A-t-elle la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, le soutien des États-Unis dans son opération en Libye?
Je crois que les États-Unis, sinon valide, du moins tolère l'activisme turc en Libye pour la raison principale qui est la présence russe sur les terrains libyens. La Russie effectivement n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2011 avec la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui était plutôt proche de la Russie, et notamment l'intervention de l'OTAN. Et la Russie souhaiterait véritablement renforcer sa présence en Afrique du Nord, ce qui va à l'encontre des intérêts des États-Unis dans la région.
Mais la Turquie en Libye, ce serait donc le pétrole et les frontières maritimes, ne pas les oublier, contre des armes, des mercenaires et un soutien diplomatique, c'est cela?
Alors, nous pourrions être tentés effectivement de résumer l'équation ainsi. Une chose est certaine, c'est que la priorité pour la Turquie en Libye est de véritablement défendre ses prétentions sur sa zone économique exclusive nouvellement redessinée. Et ensuite viennent d'autres intérêts. La Libye représente un marché pour les produits turcs, un potentiel allié politique, mais il faudrait voir si cet allié va durer dans le temps, une source d'énergie, et surtout, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, une position stratégique pour à la fois continuer à veiller sur ses intérêts en Méditerranée, tout en bénéficiant d'une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne qui intéresse de plus en plus les investisseurs turcs ces dernières années.
Pour la Turquie, la Libye, ce serait aussi une façon de recycler des mercenaires qui étaient jusque-là, par exemple, en Syrie.
Alors, sur cette question-là, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan tente absolument d'éviter un engagement de ses propres soldats sur le terrain. On l'a vu en Syrie, lorsque l'armée turque s'engage et qu'il y a un certain nombre de morts, l'opinion publique est véritablement capable de faire pression sur le gouvernement pour faire cesser ses campagnes. Et c'est quelque chose qui est pris en compte, évidemment, par les dirigeants à Ankara. Donc, effectivement, ne pas avoir à projeter une force physique turque, c'est quelque chose qui est considéré comme plutôt favorable à la stratégie turque en Libye.
Ce que l'on a constaté d'ailleurs aussi récemment dans le conflit du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Tout à fait.
Omar Babakhouya, dans votre article, vous évoquez une inflexion de la doctrine turque de défense qui évoque la patrie bleue. Le nationalisme turc prendrait-il la mer?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il est essentiel de revenir sur cette notion-là pour mieux comprendre l'activisme et la présence turque en Méditerranée. La patrie bleue en turc, Mavi Vatan, est réellement symptomatique du regain du nationalisme turc ces dernières années et qui s'explique par plusieurs facteurs et plusieurs événements. D'abord, je crois que le plus important des événements est la crise syrienne qui a sensiblement déstabilisé la frontière longue de plus de 800 kilomètres entre la Turquie et la Syrie. Il faut également mentionner la guerre entre l'État turc et le PKK. Effectivement, le long de la frontière avec la Syrie et de l'Irak. Mais l'événement marqueur qui est sans doute à mentionner ici est la tentative de coup d'État en 2016 et ses conséquences politiques, notamment la présidentialisation du régime, ce qui renforce l'empreinte du président Erdogan sur la politique étrangère de la Turquie. Et ces événements ont renforcé dans l'inconscient turc ce que les historiens appellent le syndrome de Sèvres, c'est-à-dire le sentiment réel ou supposé d'un danger qui pèserait sur la Turquie du fait de l'alliance d'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce syndrome remonte bien évidemment à la fondation de la Turquie dans les années 20 et de la guerre d'indépendance. Donc aujourd'hui, effectivement, Éric Bataillon, le nationalisme ne se limite plus à la défense de la terre, mais s'étend également à la mer, qui est désormais considérée comme le prolongement naturel de la patrie.
Alors justement, la Turquie aurait découvert en mer Noire un gigantesque gisement de gaz naturel. Est-ce que cela renforce sa volonté de faire de même en Méditerranée orientale? Et surtout, est-ce que la Turquie s'en donne les moyens matériels?
Absolument, vous avez tout à fait raison. La Turquie a mis la main en août dernier sur la plus grande réserve de gaz naturel de l'histoire du pays, un gisement qui est estimé à 320 milliards de mètres cubes. Alors, bien évidemment, Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de cette découverte-là. Et quand on l'écoute, on remarque qu'il présente le résultat qui a été obtenu par sa politique de nationalisation des moyens de recherche de pétrole et de gaz en 2017, en disant très clairement, avant la nationalisation, nous n'obtenions aucun résultat par les compagnies étrangères, et aujourd'hui, lorsque l'on a nationalisé, on a eu des résultats considérables. Et cette découverte ne fait qu'alimenter la motivation turque à effectuer davantage de recherches, pas uniquement en mer Noire cette fois-ci, mais également en Méditerranée orientale, afin d'asseoir sa stratégie d'indépendance énergétique. Sauf qu'en Méditerranée orientale, les forages turcs ont parfois lieu dans des zones disputées avec le voisin grec ou chypriote, ce qui explique les escortes militaires accompagnant les navires de mesures sismiques et de forage.
Justement, ce renforcement des moyens sous surveillance militaire ne rend-il pas l'opération dangereuse pour la sécurité maritime dans cette région de Méditerranée orientale?
Oui, je crois qu'une militarisation d'une zone disputée n'est jamais un bon signe pour la résolution des différends. Et là, en l'occurrence, il s'agit de différends politiques et juridiques, d'une part entre la Turquie et la Grèce, et entre la Turquie et Chypre, et entre les deux entités chypriotes. Mais je crois qu'au fond, la stratégie de la Turquie vise non pas à aller à la confrontation avec ses voisins, et pour certains qui sont des alliés, comme c'est le cas de la Grèce, au sein de l'OTAN, mais plutôt à démontrer sa capacité à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires avant de s'asseoir à la table de négociation. Donc je crois qu'in fine, il existe tant d'intérêts communs entre la Turquie et ses partenaires européens que seule une solution politique, avec bien évidemment des concessions de part et d'autre, et c'est ce qui est difficile à obtenir aujourd'hui, seule cette solution-là pourra permettre une sortie de crise dans la durée.
Merci Omar Babaroulia.
Merci avec Bataillon.
Politologue, auteur du livre La diplomatie turque au Moyen-Orient à l'ère de l'AKP. Cela a été publié l'an dernier, en 2020, chez l'Harmattan. À lire dans le numéro 49 de la revue trimestrielle Moyen-Orient, consacrée à la Libye, votre article sur la dimension énergétique de l'engagement turc en Libye et en Méditerranée orientale. Le groupe Altin Gun, littéralement âge d'or en turc, nous vient d'Amsterdam. Il s'agit d'un groupe de rock et de folk psychédélique qui s'inspire de la musique moderne turque des années 60-70, alliant rock occidental et musique traditionnelle. Le morceau que nous écoutons vient juste de sortir en novembre 2020.